Alors 1956, c'est une date extrêmement intéressante en économie. Quel est l'univers de la recherche en économie en 1956? Il faut savoir que la comptabilité nationale, qui permet de mesurer le PIB, qui peut mesurer la consommation, vient d'être mise en place. Elle est à ses balbutiements. C'est une énorme avancée. Et donc on peut enfin mesurer les phénomènes économiques. C'est quand même assez intéressant pour une discipline qui se prétend scientifique, si ce n'est certainement pas une science exacte, mais au moins scientifique. Alors, 56, ce n'est pas un hasard, c'est aussi la naissance de la politique économique avec un grand homme qui s'appelle Jan Tinbergen, hein, qui est le directeur du Central Plan Bureau aux Pays-Bas. Et qui est le père de la modélisation macroéconomique, avec notamment la règle de Tinbergen, qu'on utilise encore aujourd'hui, qui nous dit que si on a N objectifs, par exemple 3 objectifs de politique économique, l'équilibre budgétaire, le chômage bas et l'inflation faible, eh bien, il nous faut 3 instruments de politique économique indépendants. Donc la politique monétaire, la politique budgétaire et un troisième qu'on a du mal à trouver. Et la politique économique, donc, à cette époque-là, est considérée un peu comme une science de l'ingénieur, où on a un système d'équations qui décrit l'économie. Et puis, finalement, la politique économique, pour les scientifiques présents dans la salle, ça consiste essentiellement à inverser une matrice. Et tout le problème est de savoir si cette matrice est inversable ou non. Inversible, pardon. c'est une vision assez mécaniste de l'économie. Alors, Tinbergen a eu d'ailleurs, et était le premier à recevoir le prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel, puisque vous savez qu'il n'y a pas de prix Nobel en économie, mais il y a un prix en l'honneur d'Alfred Nobel, donc c'était en 1969. C'est aussi l'époque des ingénieurs économistes en France, avec Marcel Boiteux et la règle de Ramsey-Boiteux, qui définit la tarification optimale des monopoles publics qu'on utilise encore aujourd'hui. Et c'est aussi une époque où on fait énormément de recherches théoriques, et notamment les travaux d'équipe générale à Rodebreu, qui s'intéresse à un sujet absolument passionnant, mais qui, je suis pas sûre, va vous passionner dans la salle, qui est l'existence de l'équilibre. Cette recherche en économie reste un peu en dehors de l'université française, parce que l'université française en économie, l'économie à l'époque, dans l'université française, est une branche du droit. Et donc, toute cette recherche se déroule dans d'autres institutions, comme par exemple à l'INSEE ou au Commissariat général au plan. Alors, que s'est-il passé entre 1956 et 2016? Eh bien, alors c'est là que, voilà. Donc là, vous avez un graphique qui vous montre différents types d'articles d'économie dans 3 grandes revues américaines à différentes années, espacées dans environ 10 ans chacune. Et ce qui est en gris, ce sont les articles théoriques. Donc on voit qu'en 1963, la moitié des articles qui sont publiés sont théoriques. En 1973, ça a encore augmenté. En 83, ça a encore augmenté. Et ensuite, à partir de 93, c'est l'effondrement de la théorie et donc l'explosion de la recherche appliquée. Donc en bleu clair, vous avez donc il y a 2 sortes de recherches empiriques. Enfin, il y a aussi les résultats expérimentaux, des expériences de laboratoire qui sont très intéressantes. J'aurais pas le temps d'en parler, mais qui sont quand même encore minoritaires. Donc il y a 2 sortes de données, des données publiques et puis des données non publiques. Alors c'est assez facile de comprendre pourquoi la recherche empirique sur des données de comptabilité nationale a explosé seulement avec retard, parce qu'il fallait des séries temporelles avant de pouvoir commencer à établir des lois. Et donc, en 63, si, rappelez-vous, si la comptabilité nationale est créée en 53, ça fait que 10 ans. Donc, avec 10 ans, on ne peut pas véritablement établir des lois et plus, donc on a de recul. Donc, pour nous, les économistes, le temps joue pour nous. On a plus en plus de données, on est de plus en plus contents. Ces données aujourd'hui, il y a une profusion extraordinaire de données sur Internet. Il y a des jeunes ici, je vous supplie, lorsque vous posez une question, d'aller à la source, d'aller chercher la donnée. Les scientifiques ont la matière première, font des expériences, mais vous allez chercher la source des données. Ne vous fiez pas à ce que vous lisez sur Internet, allez chercher la source des données. Quand j'étais étudiante, il n'y avait pas de données. C'était très frustrant, mais maintenant il y en a, et donc il faut aller les chercher. Ce qui a explosé donc plus récemment, là vous voyez en 2011, l'apparition d'une zone bleue moyen, disons, Ce sont les données non publiques, et en particulier les données individuelles. Donc ça peut être des données d'entreprise, des données sur les ménages, des données sur les travailleurs, sur les assurés, etc. Alors ça, c'est très délicat. Évidemment, il y a un problème de confidentialité. Mais il y a aujourd'hui des protocoles qui permettent aux chercheurs d'accéder à ces données et de travailler tout en préservant totalement l'anonymat et des entreprises et des individus, s'il y a des individus. Et donc ça, je dois dire que la France est relativement bien placée aujourd'hui dans cette ouverture des données. C'est un gros avantage pour la science économique, la recherche en économie en France. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais le retard a été rattrapé. Et donc ça, c'est vraiment un bon point pour la recherche en économie. Je mentionne juste au passage l'apparition récente de travaux avec les données de masse. Donc le big data, Google, LinkedIn, qui sont juste ici utilisés beaucoup pour améliorer la prévision. Comme vous savez, la prévision en économie, ce n'est pas ce qu'on fait de mieux. Et on utilise avec un certain succès ces données pour améliorer la performance des modèles en prévision. Alors, où finalement, toutes ces données, ça sert à quoi? Dans quelle mesure est-ce qu'on a fait des progrès? Et là, je dirais que les progrès qui ont été faits, c'est dans le domaine de la recherche d'une relation de causalité. Donc, la relation de causalité, c'est vraiment le problème principal en économie. Vous avez, par exemple, vous faites une relance budgétaire, vous la faites pas n'importe quand. La relance budgétaire, vous la faites quand l'économie va mal. Et donc, le fait que le PIB baisse au moment d'une relance budgétaire, ça ne veut pas dire que la relance budgétaire est inefficace. Parce que, évidemment, vous ne l'avez pas faite au moment où le PIB montait. C'est la même chose dans le domaine de la santé, peut-être vous comprendrez plus facilement, évidemment, vous allez chez le médecin, en général, enfin, en moyenne, vous y allez plutôt quand vous êtes malade que quand vous êtes bien portant. Et donc, il y a une corrélation négative entre l'état de santé et les dépenses de santé, ce qui ne veut pas dire qu'arrêter de dépenser pour la santé permettrait d'améliorer la santé de la population. Donc, comment fait-on? Alors, je vais illustrer avec quelques exemples, en commençant du plus simple au plus compliqué. Alors, premier problème, donc, l'efficacité des internats d'excellence. Alors, ça, c'est donc une démarche qui a eu lieu il y a quelques années. On a introduit le système des internats d'excellence qui permettait à des élèves brillants, mais dans des quartiers défavorisés, et surtout dans des familles défavorisées, d'aller poursuivre leur scolarité en lycée dans un internat d'excellence, avec l'idée qu'ils seraient mieux suivis, mieux encadrés. Et donc, il y avait deux objectifs, la performance scolaire et une meilleure ambition, une plus grande ambition professionnelle. Naturellement, comment mesurer? Parce que c'est cher, hein, ces choses-là, c'est cher, et donc il faut que ce soit efficace, sinon on va les supprimer. D'ailleurs, on les a supprimés. Le problème, c'est qu'il y a d'autres facteurs qui influencent la performance scolaire et l'ambition professionnelle, l'effort personnel, je mentionne, la culture familiale. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Et là, ce qui a été choisi, c'est de faire une expérience aléatoire, c'est-à-dire que sur un des internats, 395 étudiants ont été sélectionnés, et parmi eux, 258 ont été tirés au sort, et les autres ont été suivis. Et donc, c'était le groupe test. Donc, ils avaient été sélectionnés tous, donc ils étaient tous de même qualité, mais par le hasard du tirage au sort, seulement certains ont intégré l'internat. Et ensuite, on suit les deux cohortes pendant plusieurs années, et donc il y avait des résultats qui étaient intéressants, qu'au bout d'un an, il n'y avait pas de différence entre les deux cohortes, et au bout de deux ans, il y avait une différence en maths, mais pas en français. Et voilà. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que le ministère de l'Éducation a choisi, juste après la publication des résultats, d'arrêter l'expérience des internats d'excellence, non pas du tout sur un critère de coût-bénéfice, mais sur un critère assez étonnant qui était que l'internat d'excellence ne pouvait pas être généralisé. Donc, voilà, l'excellence ne peut pas être généralisée, ce qui est quelque chose d'assez intéressant. Alors, donc ça, c'est un problème simple, parce que, donc ça, c'est l'idéal pour l'économiste, hein, l'expérience aléatoire, parce qu'on va pouvoir vraiment tester la causalité. Et on est rarement dans ce cas-là. Parce que, en fait, faire ce genre d'expérience, c'est coûteux, c'est long, les politiques sont pressées, je peux le dire, tant qu'ils ne sont pas là. En général, il y a des obstacles juridiques aussi. Dans beaucoup de cas, on ne peut pas le faire. Et donc, je vais vous donner un exemple où on ne peut pas le faire, c'est le crédit impôt compétitivité emploi. Où là, l'idée, bon, je vous passe le schéma, l'idée, c'est une baisse du coût du travail, donc compétitivité, donc pour augmenter la compétitivité des entreprises, et emploi pour augmenter l'emploi. Et naturellement, ben, y a plein d'autres phénomènes qui font que l'emploi va augmenter, baisser, ou la compétitivité. Hein. En même temps, il y a eu une hausse des cotisations vieillesse. En même temps, il y a eu la fin de la défiscalisation des heures supplémentaires. En même temps, l'euro a bougé, le pétrole, la croissance mondiale, etc. Donc comment fait-on ? Alors là, on est embêté parce que 94% des entreprises ont été traitées. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui allait jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Et il y a très peu d'entreprises dont tous les salaires sont au-dessus de 2,5 fois le SMIC. Et donc, du coup, presque toutes les entreprises sont traitées. Donc, on ne peut pas faire le groupe test et donc, ce n'est pas possible. On ne peut pas non plus dire aux entreprises, bah, désolé, on vous a tiré au sort, vous ne l'aurez pas. Ça, c'est anticonstitutionnel. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on regarde l'intensité du traitement. Donc, il y a des entreprises qui en ont plus bénéficié que d'autres. Et on regarde avant, après, et on compare les deux groupes d'entreprises. Donc, les résultats ont été publiés. Tout est en ligne. Hein. C'est assez joli, d'ailleurs. Je trouve que c'est assez... c'est bien. C'est une bonne évolution en France, où on hésite beaucoup à publier les résultats qui ne sont pas toujours très favorables. Et là, en l'occurrence... le coût par emploi sauvegardé est absolument stupéfiant. Mais c'est très bien du point de vue du process. Alors, ça reste néanmoins limité. Pourquoi ? Parce que, on est en équilibre partiel, ce qu'on appelle équilibre partiel, c'est-à-dire qu'on n'a pas expliqué, on n'a pas pris en compte la manière dont on finançait ce CICE. Ça coûte de l'argent. Et or, le gouvernement a financé partiellement par des baisses de dépenses, mais partiellement par de la TVA. Et un économiste, quand on lui dit hausse de la TVA, à long terme, pour lui, c'est équivalent à une baisse des cotisations sociales. Et donc, si on prend d'une main, on rend de l'autre, il n'y a pas d'effet. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Souvent, on n'est pas toujours très clair sur le fait que c'est de l'équipe partielle et le financement lui-même aura un impact. Il faut le prendre en compte. Alors, troisième exemple, c'est de plus en plus compliqué, l'impact du taux de change. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelques problèmes au Royaume-Uni récemment, donc un référendum sur le Brexit qui a eu comme conséquence immédiate de faire chuter la livre sterling de 20%. Et donc, pour les exportateurs français, c'est une très mauvaise nouvelle. Et on aimerait bien savoir quel est l'impact sur les exportations françaises. Alors là, on a un énorme problème. On cumule pas mal de problèmes. Il y a d'autres effets sur les exportations françaises, hein, la croissance des pays importateurs, les innovations des entreprises. Toutes les entreprises sont traitées, donc on ne peut pas faire un groupe traité, non traité. Toutes les entreprises exportatrices sont traitées. Et on a un problème de causalité inverse, c'est-à-dire que la France, c'est quand même 20% de la zone euro. Et donc, si les exportations françaises bougent, eh bien, il est possible que l'euro que ça a un impact sur l'euro. Donc, comment fait-on ? Là, une autre solution qui est en général utilisée, c'est ce qu'on appelle l'économétrie de panel. C'est-à-dire qu'on prend toutes les entreprises françaises, une par une. Donc là, c'est des données individuelles, hein, donc sous le sceau du secret. Et on étudie non pas l'impact du taux de change sur les exportations, mais l'impact de leur prix. Et donc, on regarde leur prix sur les différents marchés exportateurs, les différents produits. Et on neutralise par des dimensions qui ne nous intéressent pas, c'est-à-dire qu'on va mettre ce qu'on appelle des effets fixes qui vont permettre de prendre en compte le fait, par exemple, que la croissance dans le pays de destination a varié ou que l'entreprise exportatrice elle-même a connu des difficultés ou qu'il y a, sur un secteur, il y a eu un déclin. Et donc, ça permet d'isoler, parmi plein de choses, d'isoler la chose qui nous intéresse. Voilà. Alors, j'ai un dernier exemple qui a vraiment le niveau supérieur de difficulté qui occupe les économistes depuis des dizaines d'années. C'est l'impact des institutions sur la croissance. Alors, on voit bien, donc, des bonnes institutions au sens de la démocratie, une justice indépendante, un bon système d'innovation et des investissements étrangers. Tout ça va avoir un impact positif sur la croissance. Sauf que la croissance, évidemment, est nécessaire pour pouvoir mettre en place ces bonnes institutions. Et donc, du coup, on tourne en rond. Et comment donc isoler l'impact de ces institutions sur la croissance ? Alors, il y a plein de méthodes qui ont été utilisées. Une d'entre elles vous fera peut-être sourire, hein, ça consiste à essayer de trouver une variable qui est très corrélée aux institutions d'aujourd'hui, mais qui n'a pas de raison d'être corrélée à la croissance d'aujourd'hui. Et il y a un article très célèbre qui utilisait la mortalité des colons européens au XIXe siècle, avec l'idée que si les colons mouraient dans les pays colonisés, eh bien, ils n'avaient pas le temps de mettre en place les bonnes institutions. Et ces institutions, elles restent encore aujourd'hui. Et donc, ils utilisaient ça comme instrument pour identifier la relation de causalité. Bon, je pense que je ne vais pas avoir le temps de discuter beaucoup de toutes ces solutions pour regarder, pour trouver une relation de causalité, mais plutôt peut-être dire quelque chose sur les apports de ces limites et les apports et les limites de ces recherches empiriques. Et récemment, on a beaucoup parlé des expériences aléatoires, des expériences contrôlées, des méthodes de différence en différence. Elles permettent de faire des progrès indéniables. Elles permettent d'éliminer ou de recalibrer des politiques économiques inefficaces ou trop coûteuses. Ça, c'est un progrès immense. Elles ont également des limites. Et les limites, c'est un effet un peu boîte noire, parce que c'est ce qu'on appelle de l'économétrie non structurelle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop finalement pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Et donc du coup, la transposition à un autre pays ou à une autre période est un peu délicate à cause de ça. C'est aussi parce qu'on s'intéresse surtout à l'effet moyen. Donc, on ne regarde pas tellement les déciles extrêmes de la population, ce qui peut aussi poser problème. Parce que c'est de l'équilibre partiel, je l'ai déjà dit, on ne regarde pas le financement. Et aussi parce que les expérimentations sont longues, coûteuses et pas toujours possibles. Prenons par exemple l'exemple du revenu universel, dont on parle beaucoup. On dit qu'on va l'expérimenter, moi j'y crois pas du tout, parce qu'on va expérimenter peut-être le revenu universel, mais l'idée du revenu universel, c'est bien, ça va avec l'impôt universel, c'est-à-dire que donner un revenu universel à des personnes qui déjà sont riches, c'est on va augmenter leurs impôts, bien évidemment, au premier euro. Et en net, ils ne vont rien gagner. Et donc ça, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas expérimenter l'impôt. C'est anticonstitutionnel. Et donc je ne vois pas comment on va véritablement pouvoir expérimenter le revenu universel. Alors peut-être pour terminer, je n'ai pas vu le... Ça va ? Pour terminer, quelles sont les difficultés qui se posent aujourd'hui ? Alors, il y a un problème scientifique lié à l'explosion de ces travaux sur données individuelles. C'est le problème de la réplication, puisque normalement, on doit pouvoir répliquer un travail empirique. Or, si les données sont confidentielles, il y a un problème de réplication. Tout le monde ne peut pas forcément avoir accès aux données qui ont permis d'obtenir un résultat. Donc, c'est une des difficultés qu'on a. Une deuxième difficulté, c'est sur les bases publiques, c'est qu'elles sont évolutives. Il ne vous a pas échappé que le PIB est révisé plusieurs fois avant d'atteindre son chiffre final. Et donc, on a des bases de données qui sont en fait évolutives, donc ce qui rend plus problématique la réplication. Mais je voudrais plus insister sur l'utilisation pour la politique économique. Donc, on a une difficulté de base qui est la transposition, comme je l'ai dit, hein, de résultats à différents contextes. Les réformes envisagées sont d'importance, plus cette difficulté est grande. Et par exemple, quand il s'agit de faire l'union monétaire, bien évidemment, les responsables politiques se demandaient comment allait fonctionner l'économie en union monétaire. Et la réponse était « on ne sait pas ». On ne sait pas, puisque justement, le modèle n'est pas stable. On ne peut pas utiliser un modèle estimé sur une période passée pour dire des choses sur une nouvelle période où tous les mécanismes, les institutions changent. Donc ça, ce n'était pas une réponse très satisfaisante. Donc on était quand même obligé d'utiliser des modèles du passé, mais on avait des incertitudes. Et plus fondamentalement, en fait, la grosse critique qu'on peut faire aux économistes, c'est que leur modèle fonctionne plus à la marge que pour étudier des grosses cassures. Donc finalement, les économistes regardent des petits problèmes plus que des gros problèmes. Or, on aimerait mieux qu'ils s'intéressent à des gros problèmes qu'à des petits problèmes. Une autre difficulté, c'est en fait, on peut avoir des résultats théoriques et même empiriques, mais lorsqu'on applique une politique économique, le détail est très important, la mise en œuvre. Comment est-ce qu'on formule la lettre qu'on écrit aux contribuables ? Comment est-ce qu'on organise la transition ? Il y a des tas de sujets. Comment l'administration met en œuvre effectivement la réforme ? Et donc ça, on a très peu de recherches là-dessus. Enfin, il y a des effets secondaires des réformes. Si je prends par exemple, je reviens aux baisses de charges sociales. En fait, les baisses de charges sociales, donc les économistes sont focalisés sur l'emploi, on peut le comprendre. Donc ils vont regarder essentiellement l'effet sur le chômage. Mais il y a d'autres effets possibles, par exemple, sur les inégalités spatiales. Les régions en France, les territoires français... sont très différents du point de vue de la proportion de travailleurs à bas salaire dans les différents territoires. Et donc, une baisse des charges ciblée sur les bas salaires aura des effets dispersés, différents, hein, peut avoir des effets sur les inégalités spatiales, également sur les inégalités hommes-femmes. C'est des choses que ne regardent pas nécessairement les économistes. Voilà, donc, juste pour conclure, je pense que l'ouverture des données est un atout majeur. En France, on a plutôt de la chance de ce point de vue-là, mais il faut maintenir cet avantage. C'est un avantage pour la recherche, mais c'est un avantage aussi pour la politique économique. Encore faut-il que les politiques se saisissent des résultats. Et c'est peut-être là que est la faiblesse en France, c'est-à-dire qu'il y a plutôt des bons laboratoires pour faire de l'évaluation des politiques publiques, mais du point de vue de la transmission de ces résultats à la sphère politique, là, il y a quand même pas mal de progrès à faire. Merci beaucoup.